Le journal était présenté par Marie-Alix Othé, que l'on retrouve à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
Il me suffit de te voir. Je te regarde et je vois immédiatement un journaliste qui va me dire qu'il a une intuition.
J'ai vérifié certains
points. Veux-tu savoir ce que je pense des journalistes qui ont des intuitions?
This is Bob Woodward of the Washington Post.
New York Herald Tribune.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources. Et bien sûr, on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. Il y a un an, le 29 juin 2014, le groupe État islamique éclatait à la face du monde en proclamant un califat en Irak et en Syrie. Un an après, avec ses combats, ses horreurs, ses brutalités, le groupe État islamique contrôle un tiers de l'Irak, la moitié de la Syrie, un territoire plus grand que le Royaume-Uni. On peut être barbare et intelligent, un constat glaçant de Laurent Geoffrin. L'État islamique adapte sa stratégie militaire, développe sa stratégie de communication, une propagande qui lui permet de recruter. Les journalistes qui se rendent aujourd'hui en Irak et en Syrie sont peu nombreux. Comment travailler dans ces pays, l'Irak, la Syrie? On en parle ce matin dans le secret des sources avec nos invités. Alaa Khodmani, bonjour.
Bonjour.
Journaliste à Libération, fondatrice également de l'association Souria Ouria, Syrie Liberté. Et vous avez publié, Alaa Khodmani, La Syrie promise aux éditions Sinbad en mars 2014. Xavier Mounz, journaliste et auteur de documentaires. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Et notamment ce documentaire au cœur de la ligne de front encerclée par l'État islamique diffusé sur Arte au mois de février dernier. Valérie Crova, bonjour Valérie.
Bonjour.
Grand reporter au service étranger de France Culture et vous vous êtes rendu régulièrement en Syrie et à Damas. Nos deux regards extérieurs aujourd'hui dans le secret des sources, Isabelle Véramasson, historienne, sociologue des médias, directrice du laboratoire communication et politique au CNRS, et Thibault Henton pour les images et le web. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Dans les coulisses de l'émission, Vincent Abouchard, Mathias Mégy avec, à la console cette semaine, Jacques Hubert. Le clin d'œil en fin d'émission de Yacine Bouzard. Et puis nous serons en ligne également avec Cécile Allégra, lauréate avec Delphine Deloger du prestigieux prix Albert Londres pour un reportage coup de poing sur le trafic des êtres humains. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire, vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
Le 29 juin 2014, Daesh proclame la création d'un califat, une nation islamique qui représente les musulmans du monde entier et qui ne reconnaît aucune frontière politique.
J'ai été investi d'une grande mission. Je suis donc votre leader, je vous dirige. Obéissez-moi tant que vous obéirez à Dieu au fond de vous.
Voilà, vous venez d'entendre la voix d'Aboubakr al-Baghdadi le 29 juin dernier, 29 juin 2014, début du Ramadan, la proclamation du califat islamique depuis, eh bien depuis ce nouveau califat de 300 000 km², comme l'indiquent Jean-Pierre Perrin et Luc Mathieu dans Libération d'hier. Ce califat est le 11e pays arabe par sa superficie, 11e sur les 22 États de la Ligue arabe. Un territoire interdit, extrêmement risqué pour les journalistes. Alaa Khodmani de Libération, vous vous rendez souvent en Syrie. Comment avez-vous pu enquêter sur Palmyre en Syrie ou Ramadi en Irak lors de vos reportages et notamment dans Libération paru au début du mois de juin, titré « La vie sous Daesh ».
Bon, bien entendu, je n'étais pas sur place. La seule fois où j'ai pu aller vraiment dans les territoires contrôlés par l'État islamique, ça remonte à 2013 à Raqqa. Et ce n'était pas encore le monstre et la pointe de fer que c'est devenu.
Raqqa, à la Khodmani, qui est considérée comme la capitale du califat.
La capitale syrienne, un petit peu de l'État islamique de Daesh, et un petit peu son laboratoire, de son modèle de société, si j'ose dire.
Alors là, comment vous travaillez sur Palmyre?
Alors,
et Ramadi?
Je fais confiance aux gens, aux locaux. C'est-à-dire, bon, j'ai la chance d'être d'origine syrienne, de surtout parler la langue et avoir accès donc à la fois aux populations, Donc avoir des relais toujours qui me mettent en contact avec des gens sur le terrain, des habitants, des civils, des gens qui subissent, qui vivent ça directement. Et quand c'est plus difficile, j'arrive aussi à avoir par le biais des documents locaux, c'est-à-dire de la télé irakienne, des réseaux sociaux locaux aussi. Je vois tout de suite la réaction, je sens l'ambiance. Des fois, je peux voir des images. Ça a été le cas là pour mes reportages où j'ai regardé toute une série de reportages d'une télévision irakienne en particulier, où j'ai pu voir effectivement les populations qui fuyaient Ramadi, qui étaient coincées sur un pont parce qu'on leur interdisait l'accès vers Bagdad, et qui racontaient aussi bien ce qu'ils avaient vu comme exaction à l'arrivée des troupes de Daesh, que eux-mêmes, leur colère, leur révolte et leur souffrance.
Alors pour les zones contrôlées par les autres groupes rebelles, Al-Nusra ou l'armée syrienne libre, est-il possible d'y travailler, là, Xavier Mounz?
Moi, j'ai surtout travaillé sur les zones kurdes,
la montagne du Sinjar,
d'Irak et de Syrie. Pour le Sinjar, c'était plus simple parce qu'on pouvait s'y rendre par la voie des airs. Pour Kobané, c'était beaucoup plus délicat parce qu'il y avait que la voie terrestre qui nécessitait de traverser les lignes de Daesh, chose que je recommande pas forcément.
Mais combien de fois vous êtes rendu à Kobané?
Une fois. Je suis rentré quelques heures avant Daesh dans la ville. Donc les YPG m'ont ordonné d'évacuer le même jour. Et comme la seule façon d'entrer dans la ville, c'était de traverser clandestinement la Syrie, puisque les Turcs avaient fermé la frontière qui était devenue complètement hermétique.
C'est un parcours assez court finalement, mais extrêmement risqué, non?
Alors c'est là où c'est très décevant quand moi j'arrive le matin dans Kobané, après avoir passé une nuit sur le territoire de Daesh, derrière la ligne, essayer de passer. En fait, j'attendais une récupération des combattants kurdes, des YPG, des unités de protection du peuple. Mais côté est de la ville, la progression de Daesh a été fulgurante. Les lignes de défense kurdes se sont effondrées en quelques heures. Ils ne pouvaient plus passer. Et comme j'étais à 700 mètres des lignes de Daesh, à un moment, on a eu très peur parce qu'il y a un blindé de Daesh qui a quitté la ligne pour se diriger dans l'endroit où je me cachais. Et là, on s'est dit qu'il fallait accélérer le mouvement. Donc, on a pris une moto et on a attendu que les combats démarrent pour longer le champ de bataille et rentrer dans Kobané. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que j'ai très vite appris que la situation, c'est de se dégrader de plus en plus. Et qu'on m'ordonnait d'évacuer. Donc là, effectivement, il y a une grosse frustration, puisqu'on prend beaucoup de risques pour arriver à documenter cette résistance, filmer cette ville assiégée, la résistance de cette population, et qui n'était pas possible. Donc ils m'ont très vite mis...
Et tout ça sur la ligne de front, avec des combats donc,
Non, alors là, ce qui était curieux, c'est que... Ils ont refusé mon accès à la ligne de front, puisque les YPG, les combattants kurdes, se préoccupent beaucoup de la sécurité des journalistes qui viennent les voir. Donc ils ne voulaient absolument pas qu'il m'arrive des problèmes. Mmh. Ils sentaient qu'ils étaient en train de perdre les combats, qu'ils étaient en train de perdre, que la situation leur échappait complètement. Donc ils m'ont mis en quarantaine, en quelque sorte, dans ce qu'ils appelaient le Media Center, qui était un bâtiment au nord de la ville, où il y avait des lignes téléphoniques terrestres, accès à Internet, des choses comme ça, pour pouvoir communiquer avec ces rédactions. Et là, je me suis retrouvé sans pouvoir quitter la ville, sans pouvoir filmer les combattants, sans pouvoir filmer la première ligne. En fait, je ne pouvais quasiment rien faire. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai filmé cette attente de l'évacuation, puisque les combattants ont ordonné aux civils politiques d'évacuer, ont ordonné aux journalistes kurdes. Il y avait encore des journalistes kurdes dans la ville, il n'y avait plus de journalistes occidentaux. Et donc, j'ai été obligé de me livrer à la police turque, qui n'a pas vraiment apprécié de réaliser qu'il y avait un journaliste français dans la ville. Et donc, je ne pouvais plus vraiment y retourner. C'était vraiment beaucoup plus difficile après pour moi de retourner à Kobané.
Alors, pour travailler en Syrie, Valérie Krova, est-ce qu'il faut choisir son camp, entre guillemets? Je dis ça dans le sens où, si on travaille côté rebelle, on se grille ou on se coupe la possibilité de travailler côté régime, Valérie.
Oui, je crois que c'est un fait. Bon, il se trouve que j'ai été correspondante pendant 4 ans au Liban et que moi j'ai fait ce choix de demander des visas parce que je pense que c'était indispensable aussi de couvrir ce conflit côté régime. Et tout en allant de ce côté-là, de toute façon on arrive à avoir des informations et de passer par des interstices qui permettent de voir une réalité aussi. Hein. Ce qui était possible il y a 3 ou 4 ans au tout début de la guerre l'est beaucoup moins aujourd'hui. Et c'est vraiment plus compliqué, évidemment, d'aller, par exemple, dans la banlieue de Damas, ce que j'avais pu faire en 2012 pour rencontrer des gens qui manifestaient. Aujourd'hui, c'est totalement impossible, parce que l'armée syrienne encercle ces villes de la banlieue de Damas, de la Rouda orientale. Et donc, c'est vraiment de plus en plus compliqué, de plus en plus compliqué d'avoir une information objective en étant côté régime. Cela dit, la dernière fois, par exemple, c'était au mois de février, quand je suis allée en fait à Alep. Sur la route, il y a un carrefour qui est assez connu. En fait, il y a une autoroute qui permet d'aller de Homs à Alep, et cette autoroute est aujourd'hui n'est pas praticable parce qu'il y a des poches tenues par la rébellion. Donc, il faut faire un gros détour pour aller de Homs à Alep. Et il y a un carrefour où les gens font le trajet entre Alep et Raqqa. Et avec Gilles Gallinaro, qui est le technicien qui m'accompagnait, on s'est arrêté ici à ce carrefour, en attendu que des bus sortent de Raqqa, et on a fait du témoignage de gens, de femmes en particulier, qui sortaient et qui ont accepté. Il y en a très peu hein, qui ont accepté de nous parler, parce que tout simplement parce que je crois qu'elles avaient peur d'être dénoncées par des gens qui étaient autour d'elles, et elles m'ont parlé de la vie à Raqqa. Une femme avait sa burqa, qui était sur ses genoux, qu'elle n'avait pas mise encore, mais qu'elle allait mettre puisqu'elle allait rentrer à Raqqa. Donc elle l'avait mise sur ses genoux. Elle m'a expliqué qu'elle avait vu des décapitations, des têtes coupées qui étaient entreposées sur la place publique. Et on a quand même réussi à avoir des témoignages de cette partie de la Syrie qui est donc en dehors du contrôle du régime, quoi.
Une fois qu'on a un visa, ce n'est pas l'assurance d'en obtenir un second ou un troisième. Le régime vérifie à chaque fois ce que vous faites, ce que vous avez fait, qui vous êtes, où vous êtes allé. Il y a un gros contrôle.
Alors, il y a un gros contrôle, mais le contrôle, il est pas postériori. C'est-à-dire que là, par exemple, je redemande un visa. J'ai envoyé une liste au ministère de l'Information, qui est le passage obligé pour demander d'abord un visa, et puis ensuite, quand on arrive sur place. Donc, j'ai fait une liste des sujets que je souhaite faire, et c'est donc soumis à l'autorisation des autorités. Là, par exemple, je voudrais me rapprocher de Palmyre, puisque Palmyre a été prise récemment par Daesh. Il n'est pas dit que j'ai l'autorisation de me rapprocher, parce que, d'abord, les conditions sécuritaires ne sont peut-être pas réunis pour pouvoir le faire.
Est-ce qu'on est dans le reportage, est-ce qu'on est dans la communication de Daesh ? C'est ça qui m'importe vraiment.
Le secret des sources.
La communication, la propagande de l'État islamique est faite de manière très professionnelle. Est-il vrai que l'État islamique fait de la communication ciblée? Je ne sais pas si vous avez la réponse. Par exemple, la destruction du musée de Mossoul et des statues de Palmyre récemment. L'État islamique sait par exemple que ces images choquent beaucoup en France. Les sites historiques, ça choque beaucoup en France, et donc les vidéos sont d'abord envoyées vers la France. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que la communication de l'État islamique à la Khomeini va jusque-là?
Ah oui, je crois que là, ils savent très bien ce qu'ils font. Les messages qu'ils veulent faire passer, le moment où ils veulent les faire passer, vers qui les faire passer. Non, je crois que ça, c'est des choses très maîtrisées. Il y a beaucoup de choses très maîtrisées, d'ailleurs, dans l'organisation de l'État islamique, et certainement la communication. Et bon, vous parlez du contraste, par exemple, Mossoul, l'objectif, c'était de choquer, de montrer, de faire peur, tout simplement, en détruisant les pièces de musée, etc., genre vos choses sacrées, Occident, voilà ce qu'on en fait.
Et des assassinats, des exactions, des tueries.
Tandis que Palmyre, justement, après, quand ils ont vu, et c'est ça qui est très intéressant, voir quand même que c'est très étudié, quand ils ont vu que le régime syrien voulait en faire une histoire de communication, justement, que c'est le régime qui a commencé à en faire l'opération communication, aïe aïe aïe, le trésor du monde vont tomber parce qu'on peut plus les protéger. Du coup, Daesh a exactement fait le contraire. On touche à rien. Au contraire, on diffuse des images de Palmyre en parfait état. Non, c'est un patrimoine auquel nous tenons. C'est la Syrie. Et bon, on voit le contraste là. L'objectif était plutôt de montrer on est là, en fait. On non. est là et on est capable de gérer les choses. Ce n'était plus faire peur. On a réussi à faire peur et à terroriser le monde entier. Il y a plus grand monde d'ailleurs en face. Et maintenant, il vaut mieux presque se faire accepter ou dire bah on est capable aussi d'être bien.
C'est la raison du changement de stratégie que vous expliquez dans votre enquête la vie sous Daesh, parce que il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les sites historiques, il y a aussi ils permettent aux femmes de conduire, ils rétablissent l'électricité, ils renforcent les hôpitaux.
Ce sont des aspects qu'on peut absolument pas négliger. Dans un pays dévasté, en guerre depuis 4 ans et demi, 5 ans, il faut voir que les populations, maintenant, ne demandent qu'une chose, c'est de vivre normalement. C'est-à-dire avoir l'eau, l'électricité, les services, de l'ordre, être assuré de leur pain quotidien, etc. Et Daesh a très bien compris ça. Bon, ils prennent en plus des populations. Moi, il y en a qui me disent, hein, même dans les zones contrôlées par Daesh, on a vécu 40 ans de dictature du Baas, du régime de Bachar el-Assad, des Assad au pluriel, ben là, c'est un peu la continuité, avec juste, bon, on s'habille différemment, la terreur est la même, la surveillance est la même, le système totalitaire est le même. C'est une...
Un méchant remplace un méchant.
On est, voilà, bon, ceux-là sont moins voleurs, moins corrompus peut-être, et les gens commencent à comparer. Ce n'est plus incomparable pour eux dès lors que le quotidien est assuré, alors que dans les zones qui ne sont contrôlées par personne, ou presque, ou qui ont des combats, là, la population est vraiment complètement perdue.
Valérie Crova.
Non, je voulais juste rajouter, c'est qu'à Palmyre, ils ont quand même, Daesh a mis en scène des exécutions quand même dans les ruines de Palmyre. Hein.
Oui, mais c'était des exécutions des gens du régime, c'était pas... on touche ni aux colonnes, ni au patrimoine de Palmyre. On a exécuté, oui, les traîtres, comme ils les appellent, les impurs, enfin, peu importe, les exécutions. Bon, c'est la première arme de Daesh, on parlait des têtes coupées partout. Bon, ça, c'est dès qu'ils investissent un lieu, pour l'exemple, et pour terroriser tout le monde, on fait des exécutions, on coupe des têtes, on les expose, on les exhibe, on organise ça. C'est...
Xavier Mounz.
Pour revenir sur cette stratégie de la terreur qui était appliquée avant, il était intéressant de noter la façon dont Daesh communiquait sur les vidéos des exécutions et des décapitations. Les exécutions d'otages issus de la péninsule arabique ou du Proche-Orient, du Moyen-Orient, n'étaient pas sous-titrées en anglais. Daesh savait que c'était des vidéos qui n'allaient pas intéresser les médias occidentaux, ouais. Et il ne prenait pas la peine de les sous-titrer en anglais. C'était uniquement sous-titré en arabe. Donc ils avaient cette maîtrise aussi du mode de fonctionnement des médias occidentaux.
Il y a aussi, dans la stratégie de communication très professionnelle, il y a le magazine Dabiq sur Internet. Il y a aussi un magazine en français, le dernier est paru Dar al-Islam, la maison de l'islam, qui est paru en février dernier. Il y a également des applications pour smartphones créées, élaborées par l'État islamique. Est-ce que dans vos enquêtes, vous servez de ce que l'État islamique produit comme propagande pour vous alerter? Est-ce que même il est possible d'être en contact, non pas physique, mais au téléphone ou sur les réseaux sociaux avec des gens de Daesh à la Khonmani?
Oui.
Ouais.
Oui, moi j'évite. Je n'aime pas beaucoup. Enfin, c'est tout à fait possible.
Valérie Crova est d'accord.
C'est tout à fait possible. Je veux dire, bon, il suffit de leur parler, ils sont ravis, ils ont beaucoup de choses à dire et ils peuvent... Bon. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais avec qui on est. Bon, j'ai eu des contacts que je n'ai absolument pas suivis. Par contre, j'utilise leur propagande, oui. J'utilise leur production, on va dire. Que ce soit les magazines, que ce soit les sites officiels, que ce soit les vidéos, ce sont des sources d'information. Parce que je veux savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire passer. Bon, c'est pas toujours des messages destinés à un public occidental ou quoi. Des fois, c'est des messages destinés à leurs propres troupes.
Xavier Muntz, oui, pardon, allez-y.
Non, non, moi, mes rapports avec les combattants de Daesh sont limités à des rafales de Kalachnikov et des tirs de Dragunov. Donc non, j'ai pas de rapport.
Le but de cette propagande, c'est de recruter.
Niqab, prière forcée, pas de musique, pas de divertissement. Ce diktat, des milliers de femmes syriennes le subissent, mais certaines l'ont choisi et elles viennent de France. Un club internet au cœur de Raqqa.
Non, ça fait longtemps. Bien, pourquoi je suis venue sur Facebook? Ah oui, pour parler.
Devant chaque ordinateur, des femmes conversent en français parfait.
Ouais, tu m'entends bien, tu disais, elle n'a pas parlé de sa
famille. Toutes dialoguent avec leurs proches en France.
Je ne veux pas qu'elle se mette dans la tête que je veux revenir parce que je ne vais pas revenir. J'ai pas pris le risque de venir ici pour revenir en France. J'ai pas envie de revenir. Parce que je suis bien ici.
Non, non, pas ta chance.
Ce que tu vois à la télé, c'est faux. T'as compris?
Voilà, extrait d'un reportage diffusé sur France 24 en octobre dernier. Alors, dans ce reportage tourné en caméra cachée, qu'on a tous en mémoire, bien sûr, les conversations ne sont pas toujours très audibles. Hein, et la jeune femme française dans le café internet qui parle à sa mère par Skype lui dit « Je ne veux pas revenir, maman, je te le dis cash, je ne veux pas revenir parce que je suis bien ici. Ça ne sert à rien de pleurer ou d'avoir peur. Ce que tu vois à la télé est faux, ils exagèrent tout. » Un reportage, un document édifiant, il faut peut-être quand même tout de suite rectifier et expliquer qu'au contraire, il faut croire ce que Alaa Kodmani écrit dans Libé. Il faut croire les reportages de Valérie Crova et les reportages télé de Xavier Muntz, les autres et des autres journalistes qui risquent leur vie en Syrie et en Irak. On parle bien de la terreur de l'État islamique. Alaa Kodmani, la vie sous Daesh, c'est vraiment vraiment la terreur.
L'objectif de Daesh, c'est qu'on se plie à sa terreur. Bon, il faut être aussi ne pas être ni d'une minorité, ni d'afficher. Dès lors qu'on se soumet, la vie quotidienne est vivable. Voilà, on vit comme...
Sous la charia.
On vit point, quoi. On respire. Mais sinon, non, on peut pas... Il est interdit de... Tous les interdits sont là. De circuler, de s'habiller d'une certaine façon, de pas bouger au moment de la prière. Enfin bon, l'ordre est là. C'est terrorisant, bien sûr, c'est terrorisant. Ça, c'est. Mais les gens qui n'ont pas le choix se soumettent. Et comme c'est une histoire qui est dure, contrairement à ce qu'on crut, moi, je connais beaucoup de gens de Raqqa ou d'ailleurs qui sont partis au moment où l'État islamique a vraiment tenu la ville. Ils se retrouvent au bout de 2 ans, sans ressources, loin de chez eux, avec leur maison qui a été occupée, parce que Daesh réquisitionne les appartements occupés pour loger leurs djihadistes venus d'ici et là. Et quelque part, ils se disent, ben, on aurait peut-être mieux fait de se soumettre et de rester chez nous que... d'aller se retrouver sans ressources et loin en Turquie ou ailleurs.
Le secret des sources, Frédéric Barrère.
Isabelle Véramasson, historienne, sociologue des médias. Alors on l'a vu, la communication, la propagande de l'État islamique est maîtrisée. Comment font les médias face à ce flou d'informations, de sources, et comment se repérer et s'interroger sur ces sources?
Alors la question est large et j'ai eu, donc l'autre jour, il y a eu une réunion d'une nouvelle observatoire de l'audiovisuel et du numérique dans lequel un certain nombre de journalistes ou de gens qui travaillent sur les médias sont venus nous expliquer les nouvelles manière de s'informer, en particulier dans les domaines des relations internationales, et j'aurais voulu vous en parler ici parce que ça m'a complètement fascinée. En fait, face à la difficulté d'informer, hein, on en a déjà parlé, face à la difficulté d'arriver sur le terrain, de savoir ce que pensent les gens, ne serait-ce que parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont censurés, ou parce que pour certains journalistes, on ne comprend pas forcément la langue, eh bien, on a confié à des machines le soin d'extraire des données, des métadonnées, essayer de retrouver l'opinion publique ou les opinions publiques, en tout cas, ce que pensent les gens, tel qu'ils s'expriment à travers les réseaux sociaux et Internet. Donc l'idée, c'est de finalement de fabriquer des algorithmes, de d'aspirer tout ce qui se dit sur Internet, de construire des algorithmes qui permettent d'agréger des contenus, de transformer, comme on dit, les bruits des réseaux sociaux en smart content, c'est-à-dire en contenu intelligent, pour essayer de comprendre et de rendre compte de ce que pensent les gens, ces gens qui s'expriment individuellement, d'une certaine manière, à travers les réseaux sociaux. Donc j'ai trouvé assez extraordinaire de confier à des machines le soin de retrouver les opinions publiques. Finalement, il faut retrouver d'autres manières de savoir ce que pensent les gens, parce que on ne peut pas se contenter dans ces pays-là, vous l'avez dit, de ce que disent les médias, de ce que pensent les gens, on n'a pas d'informations, donc finalement on va aspirer à Internet pour essayer de comprendre.
Et le travail des journalistes n'est pas totalement gommé, il se retrouve en bout de chaîne.
Alors c'est vrai que le public est devenu producteur d'infos, hein, c'est ça l'idée. Ne serait-ce que parce qu'il fabrique ces données qui vont ensuite être aspirées et analysées, mais les médias vont à un moment donné, et les médiateurs et les journalistes vont en bout de chaîne refaire leur métier, c'est-à-dire que évidemment c'est pas la machine qui va vous dire ce qu'il faut penser, comment il faut penser ou ce que disent les gens, mais interpréter, reprendre, analyser. Et donc en bout de chaîne, on a besoin des journalistes, je vous rassure, et on a besoin de journalistes qui travaillent sans ou avec les machines, mais des journalistes qui connaissent le terrain et qui connaissent comment analyser ces métadonnées, puisque c'est comme ça qu'on parle maintenant.
Isabelle Veramasson, merci.
Bismillah, like the feeling when I miss Falah, then wish to God and clouds to lift us all. Alhamdulillah, I wonder if BB can ever see me, and if I go back to Basra, will it ever receive me? Bismillah, homies that have the time to talk, now I wish for stars that angels find a walk. Alhamdulillah, I stand ordered the strength of my sister, kiss her and thank God, our mission is planned for. Bismillah, mamati, inti hayati, mom the best one, hold her close to heart like my left. Alhamdulillah, for the truth and the being as beaming as the moon queen, he blessed my future to be with. Bismillah, for the soul's anguished love, and the moment my brothers program these drums. Alhamdulillah, we put the truth to the test, proof that we bless students of this music at best. It goes. Militants try to split this law. Alhamdulillah, for every living day that we spent in the rays of the shams while we praise the condemned. Bismillah, wish I could take it back and lift the home, make a track, erase the past that we missing. Alhamdulillah.
Voilà, on vient d'entendre Alhamdulillah par The Narcissist, un rappeur d'origine irakienne qu'on a pu écouter au Transmusical de Rennes. Thibaut Henton, alors on l'a vu, l'État islamique maîtrise parfaitement les réseaux sociaux, rêve toujours à faire passer sa propagande. La cyberattaque contre la chaîne de télévision TV5 Monde, il y a 2 mois, avait été revendiquée par des inconnus, se réclamant du groupe État islamique, un cybercalifat. Et puis patatras, aujourd'hui, la piste s'oriente vers les Russes.
Oui, vous vous souvenez, ou peut-être pas, du piratage de TV5 Monde qui avait forcé la chaîne à cesser ses programmes pendant plusieurs heures. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, en avait même profité pour faire la réclame pour son projet de loi sur le renseignement, juste avant son examen au Parlement. Eh bien, si vous ne vous en souvenez pas, c'est pas grave, car entre-temps, la loi a été votée et la piste des cyber-djihadistes abandonnée par les enquêteurs. Derrière le piratage de TV5 Monde, il n'y avait donc pas l'obscur cyber-califat, mais plus probablement des pirates russes bénéficiant de soutiens financiers importants, étant donné la sophistication de l'attaque, voire carrément du soutien de l'État russe. Adieu, cyber-califat, bienvenue à l'APT-28 ou Sednit ou encore Pound Storm, littéralement la tempête de pions, comme est surnommée cette phalange de hackers patriotes, comme dit Olivier Tesquet sur le site de Télérama. On connaissait l'armée électronique syrienne et l'unité 61-398 en Chine. On connaissait aussi les aptitudes des services israéliens derrière le virus Stuxnet qui avait endommagé les centrales nucléaires iraniennes. Voici venu le temps de la tempête de pions. Quant à savoir quel est l'intérêt pour des hackers russes de s'en prendre à TV5 Monde, un média pas particulièrement réputé anti-russe, me semble-t-il, mystère. Peut-être cette opération sous faux drapeau a-t-elle servi à tester une nouvelle technique ou bien à attirer l'attention ici pour mieux pénétrer là-bas, Tout est possible, l'imagination paranoïaque est reine, et c'est d'autant plus vrai au royaume des cyberbarbouzes, où il est si difficile de se dissimuler.
Mais dites-moi Thibault, le cyber-califat existe quand même?
Oui, il semble bien, si j'en crois en tout cas le livre d'Abdel Bari Atwan paru en mai dernier, « The Rise of the Digital Caliphate », dont on peut trouver quelques extraits en ligne. Un des faits d'armes de ce cyber-califat, véritable déclaration de cyberguerre, est le piratage en janvier dernier des comptes Twitter et YouTube du CENTCOM américain, le centre de commandement qui coordonne l'activité des troupes américaines au Proche-Orient notamment. Bon, ce qui est sûr, c'est que depuis la diffusion sur le net de la déclaration de Aboubakar al-Baghdadi, s'autoproclamant calife qu'on entendait au début de l'émission, la notoriété du groupe a su user des réseaux pour s'étendre, proliférant parmi une jeunesse née avec Internet ou quasi. Baghdadi lui-même est né en 71 et contrairement à Al-Qaïda, qui diffusait au compte-gouttes des vidéos de mauvaise qualité de ses dirigeants dans des grottes, l'OUI multiplie les montages soignés, feuilletonne, s'adapte en permanence, on l'a un peu dit. Sans les technologies, précision, sans les technologies américaines, le groupe État islamique ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Pour le réalisateur Yazan Astanasiadis, qui signait en septembre dernier une tribune pour le site Al Jazeera en anglais intitulée « À la recherche du califat numérique », le modèle d'organisation de l'OUI est celui vers lequel nous poussent les technologies actuelles, archipels de communautés déconnectées les unes des autres, mais utilisant les mêmes services propriétaires. En ce sens, l'organisation État islamique serait au moins autant le produit du médiévalisme que de la chambre d'écho dans laquelle Internet nous enferme.
Thibault Henton, merci. Xavier Mounz, on va écouter un extrait de votre reportage « Encerclé par l'État islamique ».
L'État islamique a envahi tous les villages autour du Sinjar. Les plus proches se trouvent au pied de la montagne. L'ennemi est au bout de la route.
Tu vas leur tirer dessus à la mitrailleuse ?
Non, fiston. La mitrailleuse, c'est à eux, pas à nous. On va faire partir Daesh d'ici, comme ça. Après, vous pourrez retourner à l'école.
L'école ? L'école ? Je vais tuer l'école ?
Quoi ?
Je vais tuer l'école ?
Mais non. Vous allez à l'école pour apprendre à lire, à écrire et à connaître des choses. Vous allez devenir des docteurs, ingénieurs ou professeurs.
Oui.
Et vous pourrez acheter des belles choses. C'est mieux, non ?
Oui, ça c'est bien. Ils disent qu'ils vont tuer l'école.
Hein ? Non, non, pas l'école. L'école, c'est joyeux. On va vous ramener à l'école pour que vous appreniez plein de choses.
Elle est belle cette séquence, alors que, rappelons-le, vous êtes encerclé, pris au piège sur la ligne de front. C'est un reportage diffusé sur Arte en février dernier, hein, Xavier Mounz.
D'ailleurs, oui, d'ailleurs, c'était un grand coup de chance, cette séquence pour moi, parce que j'étais sur le toit de la caserne et l'unité de combattants yézidis, les Yébéchés, qui se préparaient donc à briser le corridor avec le renfort des Kurdes syriens et des Kurdes irakiens qui allaient arriver par le nord de la montagne. Enfin, tout le monde se préparait, il y avait une espèce de grosse effervescence à ce moment-là, et j'étais sur le toit de la caserne, et en tournant la tête, je vois ce combattant assis sur le toit, qui est en train de discuter avec un petit garçon. Et je me dis, bon, il n'est pas sonorisé, il n'a pas de micro sur lui. Et là, je vois un deuxième enfant qui arrive, un troisième enfant qui arrive. Et là, je me dis, je vais le tenter, c'est pas possible, je vais le tenter. Je pose la caméra, je cours chercher les micros, j'escalade les murs, je saute sur le toit.
Donc vous enregistrez, vous sentez que c'est intéressant, qu'il se passe un truc.
Je savais que ce soldat avec ses trois enfants sur le toit...
Habillé en soldat, j'imagine, avec les cartouchières, et c'est ça ?
Oui, le soldat était habillé en soldat.
Avec les cartouchières, j'imagine, avec les enfants.
Il était en train de nettoyer son fusil, et je pensais que... Enfin, je savais que j'allais en faire quelque chose.
Alors, comment vous rendez sur place dans les montagnes du Sinjar ? Vous nous dites en hélicoptère, c'est ça, hein, par la route, c'est impossible. Qu'est-ce que vous voyez ? Par quoi êtes-vous frappé en arrivant sur place ?
Alors, je m'y attendais un peu, puisque avant de prendre l'hélicoptère, ça faisait déjà 5 jours que j'étais bloqué, qu'on essayait de monter dans cet hélicoptère qui ne venait pas, qui ne pouvait pas atterrir à cause des conditions météo en haut de la montagne. Le seul ravitaillement entre avec la montagne, c'était l'hélicoptère. Donc ça faisait déjà... Ça a duré 7 jours en tout. Donc je savais qu'il allait avoir une espèce d'effervescence à l'atterrissage. Les réfugiés, même les combattants kurdes, allaient sauter sur les hélicos pour récupérer le ravitaillement. D'ailleurs, l'hélicoptère qui m'a posé a dû redécoller parce que tout le monde essayait de monter dans l'hélico. Ils ont dû redécoller et balancer le matériel depuis les airs pour pas risquer le chaos absolu.
Et les combattants, vous êtes frappés par le peu d'équipement, c'est ça ?
Oui, alors c'est du... Alors, là aussi, je m'y attendais. Je savais, j'avais déjà vu, donc...
Bah, vous entendez, on a l'impression que tout le monde allait à l'époque dans les montagnes de Sinjar facilement.
Non, c'était pas facile. Il y avait cette équipe... Enfin, c'était beaucoup plus facile qu'à Kobané,
ouais.
Non, puis les hélicoptères de l'armée irakienne, c'est pas exactement les meilleurs appareils du monde. Pendant ce pont aérien, il y en a 2 qui sont tombés. Donc, quand on met le pied dans l'hélicoptère, on a aussi une petite appréhension de se dire « j'espère que celui-là, il va voler jusqu'au bout ». Donc non, c'est pas évident. Mais voilà, ce qui m'a frappé en descendant l'appareil, c'était cette espèce d'effervescence. Voilà, il y avait de la nourriture qui arrivait, un peu d'armement, un peu de matériel.
Xavier Mounz, votre reportage encerclé par l'État islamique diffusé donc en mois de février dernier sur Arte, visible sur le site de la chaîne Arte, toujours bien sûr. À la Côte-Nani, on n'a pas parlé des journalistes locaux, on a parlé de nous, journalistes français, de nous, journalistes franco-syriens. Vous animez des ateliers aussi pour former ces jeunes journalistes syriens à ce conflit. Ils payent un lourd tribut, ils sont très courageux. Et...
Oui, merci de me poser la question parce que j'ai manqué de le faire au début. Parce que c'est vrai que ces jeunes journalistes syriens qui sont partout, qui restent sur le territoire, qui commencent à avoir de plus en plus le bon réflexe. Au début, c'était des militants. Maintenant, ils savent capter l'information, ils savent vérifier certaines choses et ils deviennent des relais absolument formidables. Ils sont ils n'ont pas les difficultés des journalistes occidentaux, évidemment, pour accéder au territoire, où que ce soit. Même dans les territoires de Daesh, bon, beaucoup de militants, de jeunes activistes ont dû partir pour ne pas être attrapés ou exécutés, mais ils gardent des relais sur place et ils font un travail formidable pour relayer l'information, justement. Il y a des pages Facebook, il y a des petits sites que je suis régulièrement. Bon, moi, je suis en contact direct avec eux et je les retrouve très régulièrement. Ils sortent de Syrie pour ces formations assurées par des professionnels et organisées par des organisations européennes et françaises pour de soutien au développement média.
Merci à la Côte-Mani. Thibaut Hento, on va clore avec vous ce débat.
Oui, parce que à une image en particulier, car cette propension de l'organisation État islamique à utiliser les réseaux dont je parlais tout à l'heure a donné lieu à un épisode cocasse rapporté par le site Slate le 5 juin dernier. Un bâtiment stratégique de l'État islamique aurait pu être détruit grâce aux selfies ou autoportrait d'un de ses membres. Alors, c'est des analystes américains qui ont analysé 22 heures durant quand même le cliché. Un cliché, si c'est bien celui-là qui a été utilisé, qui montre un homme s'exposant devant un panneau indicateur carrément avec en effet un bâtiment derrière lui. Alors une bourde similaire avait été provoquée l'été dernier en réaction une campagne de discrétion médiatique de l'organisation de l'État islamique, campagne largement relayée, dans laquelle des règles très précises étaient édictées par les spécialistes com de l'organisation, interdit de partager sur les réseaux des informations concernant les déplacements de convois, les techniques de fabrication d'armes, le ralliement d'une personnalité, notamment. Bon, eh bien, c'est raté pour cette fois. Cette histoire de selfie bombardement, qui avait tout pour faire le tour des réseaux, est cependant très bizarre. Pourquoi l'armée américaine communique-t-elle là-dessus si elle veut que les djihadistes continuent à faire des selfies et à leur indiquer des cibles à bombarder ? À moins qu'il ne s'agisse de relancer la campagne de discrétion de septembre 2014 pour réduire l'influence de la propagande de l'État islamique sur les réseaux. Dernière hypothèse, cette anecdote serait en fait à destination des Américains eux-mêmes afin de les persuader que la surveillance des réseaux par les services de renseignement, réseaux sociaux compris, est tout à fait vitale et nécessaire.
Thibaut Hento, merci. Le clin d'œil de Yacine Bouzard, exercice de traduction arabe-français.
Tu peux me rendre un service, s'il te plaît? Je dois faire un sujet sur Daesh et j'ai une vidéo en arabe. Là, il y a un homme qui dit Inch'Allah. Tu pourras me traduire ce qu'il dit?
Oui, bien sûr. Fais-moi écouter.
Alors, ouais, voilà, c'est ça.
Je vous présente une femme issue d'une grande famille d'artistes, du cinéma indien. Il dit aussi que cette femme artiste est heureuse et fière d'être dans une émission de télé arabe face à un public arabe. Voilà, en gros, ce qu'il dit.
Tu veux dire qu'il y a des vidéos en arabe qui ne parlent pas de Daesh ni de terrorisme?
Ben ouais.
Merci à nos invités pour ce débat. On va aborder un autre sujet hein, en lien avec la discussion que nous venons d'avoir. On part dans le Sinaï égyptien.
Il y a quelques mois à peine, j'étais enchaîné au fond d'une cave. Certains y sont encore, et moi j'ai eu de la chance. Je m'appelle Robel, j'ai 24 ans. Au départ, je voulais juste fuir la dictature, mon pays, l'Érythrée. Je suis parti vers la frontière. Je suis passé au Soudan et des hommes armés me sont tombés dessus. Ils m'ont balancé dans un pick-up, comme un animal. J'ai été kidnappé. 10 jours plus tard, j'étais à plus de 3000 km de là, en Égypte. Où exactement? Je sais pas. C'était près de Gaza, dans le désert du Sinaï.
Extrait de votre reportage récompensé par le jury du prix Albert Londres. Bonjour Cécile Allegra.
Bonjour.
Bonjour et bravo. Vous avez donc remporté avec Delphine Deloger le prestigieux prix Albert Londres 2015. Voyage en barbarie sur la piste des réfugiés du Sinaï, diffusé sur Public Sénat. Alors le jury parle d'un reportage coup de poing, empreint de pudeur et de dignité. Vous nous parlez, Cécile Allegra, d'un trafic d'êtres humains effroyable. 50 000 Érythréens torturés ces dernières années dans le Sinaï.
Oui, ce sont les chiffres qu'on a à disposition, parce qu'évidemment, il est très difficile de connaître précisément l'ampleur de ce trafic. C'est peut-être beaucoup plus, on ne le sait pas. En tout cas, c'est un trafic qui a commencé en 2008-2009. Auparavant, les Érythréens partaient massivement, parce que je vous rappelle, l'Érythrée est une dictature très répressive, et les jeunes mineurs sont appelés au service militaire qui est obligatoire et qui est à vie. Ils fuient, et quand ils fuient, quand ils passent la frontière, ils tombent sur des trafiquants d'êtres humains qui les kidnappent et qui les emportent là où ils n'auraient jamais voulu aller, en principe, c'est-à-dire dans un désert difficile d'accès, où ils construisent des camps de torture et où ils les torturent en direct au téléphone, et à l'autre bout du fil, il y a leurs proches.
Mais c'est ça, c'est abominable, avec le téléphone portable, cette scène qui est dans votre reportage.
Oui, c'est évidemment, c'est très impressionnant. Même nous, on a encore du mal avec Delphine à entendre les extraits qu'on a pourtant montés pendant des mois. Et en même temps, c'est ce qui explique que la méthode fonctionne, puisque les gens payent. Les Érythréens arrivent en fait à pouvoir s'appuyer sur la diaspora érythréenne qui est assez ancienne et qui se mobilise massivement pour essayer de les sortir des camps. Voilà.
Mais il n'y a pas que des Érythréens qui fuient la Corne de l'Afrique, il y a aussi des Soudanais, des Somaliens. Alors bien sûr, vous nous parlez de la dictature effroyable hein, en Érythrée, mais il y a plus de chances peut-être d'avoir une rançon.
Exactement, les Érythréens ont été ciblés au départ parce que, et dans le film, le tortionnaire qu'on a rencontré le dit bien,
oui.
Les trafiquants savent qu'ils sont désespérés, ils savent qu'il y a une diaspora forte, ils savent que la diaspora a des moyens, et donc ils savent quelque part qu'ils ont une valeur un peu supérieure par rapport aux Éthiopiens, aux Somaliens ou aux Soudanais. Maintenant, il est évident qu'à partir du moment où une méthode de trafic fonctionne, marche, et donne des fruits, puisque on parle de 30 à 50 000 dollars par personne, en termes de rançon, c'est énorme, ça pourrait très bien demain s'appliquer à une autre nationalité, à une autre origine d'Afrique, si vous voulez. Je pense que si cette méthode continue de torture contre rançon continue d'avoir lieu, d'avoir cours, notamment dans le désert libyen, eh bien demain, les Sénégalais, les Nigérians, les Congolais ne seront pas à l'abri de passer par le même type d'horreur absolue.
Alors Cécile Allegra, je crois que vous réclamez un statut du migrant, des migrants, et vous souhaiteriez vous tourner vers l'ONU pour entreprendre cette démarche?
En fait, nous, ce qu'on essaye de dire avec Delphine, on est ravis d'avoir le prix, hein, ça nous a beaucoup aidé, parce qu'on peut avoir plus d'occasions de plaider, parce qu'une fois qu'on fait un film, même si ce film est réussi et on a réussi à aller là où d'autres auraient peut-être pas réussi à aller, la question fondamentale qu'on s'est posée en sortant, c'était: que fait-on avec ça? Parce qu'on a ramené des témoignages qui sont uniques. Les migrants, si on veut les appeler comme ça, érythréens, ne parlent pas. Ils sont persécutés par-delà les frontières. Donc les témoignages qu'on a ramenés sont des pièces à conviction. Et donc on essaye d'alerter les institutions sur le fait qu'il y a un crime qui est en cours de fabrication et que bientôt l'autre bord de la Méditerranée va se transformer en antichambre de la torture. Et le naufrage des navires en Méditerranée, ça sera le dernier, juste le dernier maillon d'une chaîne d'abominations qu'ils auront traversées et qui feront qu'ils arriveront en Europe complètement dévastés. Voilà, on le voit déjà maintenant, mais faut pas oublier que ce sont les Européens de demain, quelque part. Alors, sans faire d'angélisme et sans être dans le tout-accueil, l'Europe a une responsabilité. On peut initier une commission d'enquête, et je pense qu'il est le temps de l'initier, cette commission d'enquête sur les crimes abominables qui se commettent dans la Corne de l'Afrique et qui concernent 4 pays, hein, je le rappelle, l'Érythrée, le Soudan, l'Égypte et la Libye. Et puis, il est temps peut-être aussi de revoir globalement notre politique d'accueil, puisque c'est des survivants de camps. Ça rappelle quand même des choses, voyez, qui font écho à d'autres époques. Voilà.
Merci beaucoup, Cécile Allégra. Merci. Voyage en barbarie, prix Albert Londres 2015 avec Delphine Deloger. Merci. L'émission se termine. Merci à vous, les invités en studio, Ala Kodmani, journaliste à Libération, fondatrice également de l'association Souria Ouria, Syrie Liberté. Vous avez publié la série promise aux éditions Sinbad en mars 2014. Xavier Mouns, journaliste et auteur de documentaires et notamment Encerclé par l'État islamique, diffusé sur Arte en février dernier. Merci également à Valérie Crova, grand reporter au service étranger de France Culture. Encore bravo et merci à Cécile Allégra que nous venons d'entendre. Nos deux regards extérieurs de l'émission aujourd'hui qui nous ont éclairés, Isabelle Véramasson, historienne, sociologue des médias, directrice du laboratoire communication et politique au CNRS, et Thibaut Henton pour les images et le web. Dans les coulisses de l'émission, Mathias Mégy, Vincent Abouchard pour la préparation, la réalisation et le site franceculture.fr, avec aux manettes aujourd'hui Jacques Hubert, le clin d'œil de la semaine Yacine Bouzard, dans un instant le journal de Marie-Lix Othé, suivi de répliques, les intellectuels, le peuple et la République. Alain Finkielkraut reçoit les philosophes Jacques-Alain Miller et Jacques Rancière. C'était Le secret des sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal, réplique, bonne journée sur Culture. Pour travailler en Syrie, Valérie Crova.
J'ai envoyé une liste au ministère de l'Information, qui est le passage obligé pour demander d'abord un visa, et puis ensuite quand on arrive sur place. Donc j'ai fait une liste des sujets que je souhaite faire, et c'est donc soumis à l'autorisation des autorités.
Il y en a qui me disent, hein, même dans les zones contrôlées par Daesh, on a vécu 40 ans de dictature du Baas, du régime de Bachar el-Assad, des Assad. Ben là, c'est un peu la continuité, avec juste, bon, on s'habille différemment, la terreur est la même, la surveillance est la même.
Moi, mes rapports avec les combattants de Daesh sont limités à des rafales de Kalachnikov et des tirs de Dragunov. Donc non, j'ai pas de rapport.